L'info du jour avec aujourd'hui l'artiste Julien Marinetti, peintre et sculpteur dont les œuvres sont présentées dans le monde entier, notamment à travers les galeries Bartou, qui a récemment organisé une présentation aux Barrières les Neiges. Julien Marinetti, vos pandas colorés sont connus ici depuis des années. Vous êtes donc plasticien, sculpteur et peintre, je l'ai dit. Mais l'association de la peinture sur les sculptures de bronze, alors c'est arrivé de manière précise et c'était totalement novateur.
Alors c'était totalement novateur, mais j'ai copié sur quelqu'un. J'ai copié l'équation. L'équation qui consiste à peindre un volume. J'ai rencontré chez un éditeur d'art qui s'appelle Belfond, Pierre Soulages et Jean Devanne. Je me suis entendu parfaitement avec les deux. Et Jean Devanne, qui était à l'Académie des Beaux-Arts, qui était un peintre reconnu, qui est à Beaubourg, dans les musées, dans tous les musées d'art moderne du monde, Jean m'a dit de venir dans son atelier. Et Jean m'a expliqué que lui faisait de l'antisculpture. Et l'antisculpture, qu'est-ce que c'est? Au lieu de peindre sur un espace plan, il applique la peinture typique de Jean Devanne, qui est une peinture un peu géométriste, et il l'applique sur des volumes, notamment sur des carrosseries de moto, sur des carénages, sur des volumes un peu ronds. Alors maintenant, Jean est mort, il aurait 100 ans. Mais il a été le précurseur, en fait, de ce qu'on appelle l'anti-sculpture, que moi, j'ai renommé syncrétisme de l'art, parce que c'est la conjonction entre la composition peinture et la composition sculpture.
Ce qu'il faut que nos auditeurs comprennent aujourd'hui, c'est comment vous êtes passé justement de la peinture à ces chiens que l'on connaît tant, qui sont des sculptures, mais des sculptures peintes, parce que c'est ça votre particularité.
Alors c'est le hasard, comme d'habitude, c'est le hasard. J'ai pas trouvé la pierre philosophale, mais c'est vraiment de l'alchimie au sens propre. Ma peinture ne se vendait pas dans les années 2000, à mon grand désespoir. J'étais persuadé d'avoir aucun talent, d'ailleurs je suis toujours persuadé d'avoir un talent très relatif. Et à cette époque, par le hasard, on m'a confié un chien, j'ai fait la sculpture du chien, voilà. Et comme je voyais ce chien et que je déteste plus que tout dans le monde de l'art, la simplicité, sauf si elle est théorique, comme celle de Marcel Duchamp par exemple, et là il y a vraiment une pré-rationalisation, c'est-à-dire une théorisation de l'acte et de l'action, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de ce chien? Alors à l'époque, j'avais fait 30 bronzes de ce chien, de ce bulldog, qui était fort sympathique. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Évidemment, jamais je l'aurais laissé en monochrome, en rouge, en bleu, mais jamais, c'est détestable. C'est la simplicité des gens qui sont d'ailleurs pas des artistes et pas des beaux-arts, puisque n'importe quel jouet pour enfants est rouge, bleu, noir, marron, jaune. Donc c'était pas artistique, c'était pas créatif, il n'y avait aucune création. Donc j'ai commencé par faire des collages dessus avec le New York Times. Puis après, ça a fait boule de neige. Je me suis retrouvé sur CNN, je me suis retrouvé avec les propriétaires du New York Times, comme Arthur Sulzberger Jr., mais ça, c'était il y a très longtemps.
Alors j'aimerais justement, à ce point précis, que vous nous racontiez une deuxième histoire. C'est parce qu'aujourd'hui, vos chiens sont connus comme étant Doggy John, et beaucoup se demandent pourquoi John.
Alors John, c'est parce que c'est le prénom d'un couturier.
John Galliano, bien sûr.
Voilà. Et parce que je l'ai rencontré, et parce que je trouve que c'était un personnage complètement hors norme et qui a été, je pense, l'instigateur dans le milieu de la mode de quelque chose d'extraordinaire. Bon, en même temps, j'ai aussi rencontré Tom Ford, qui avait un chien qui s'appelait John aussi. C'est le chien de Tom Ford et de Richard Buckley, qui sont deux personnes totalement exceptionnelles. Tom Ford, même en tant que cinéaste, en tant que couturier, c'est un génie. Et en tant que cinéaste, il a fait deux films exceptionnellement beaux.
Tout ça pour dire que John Galliano a compté pour vous.
Oui, John Galliano a compté pour moi, et puis aussi beaucoup Richard Buckley, qui était mon voisin, Tom Ford était mon voisin, moi j'étais un fou furieux de Gucci, c'est la grande époque de la montre G, c'est la grande époque du, on appelait ça le porno chic, c'est la grande époque du noir et du blanc, des contrastes, du manichéisme entre l'extrême esthétisme et puis l'extrême sanguin, sexualité, mais moi je trouvais ça fantastique. Moi j'ai allé jusqu'à Milan, j'ai vécu en Suisse, donc pour chercher des chaussettes Gucci, des choses complètement improbable, jusqu'à ce que je découvre que le chien de Tom, que Richard Buckley, qui est devenu et qui est le mari, qui est mort, qui nous a quittés malheureusement, le mari de Tom Ford, et le chien s'appelait John. Donc j'ai toujours oscillé, si vous préférez, entre John Galliano, avec qui je riais beaucoup, et puis évidemment le chien de Tom Ford qui s'appelait John.
Et puis une autre histoire qui décidément ne pouvait que vous ramener à Courchevel, c'est le fait que vous avez partagé un espace de création avec John Wayne. Et il se trouve que John Wayne, ici, on l'a beaucoup pratiqué, hein, jusqu'aux cabines du téléphérique.
Ah, John, oui, c'est une grande histoire, on se connaît depuis toujours. On a eu des ateliers communs, ça a toujours été mon ami. J'ai toujours essayé de l'aider. On est dans un registre d'amitié, même si on se voit plus trop, mais ça reste mon binôme, comme Robert.
Aujourd'hui, Julien Marinetti, on peut dire qu'on peut trouver vos chiens peints partout dans le monde.
Mes sculptures de pandas, de chiens, de ce que vous voulez. Donc mes œuvres sont dans le monde entier. Mais je dirais, ce sont devenus des totems. Les gens voient plus un chien, les gens voient une espèce de présence. Alors, je le dis aux gens, c'est très important parce que c'est un chien qu'on n'a pas besoin de sortir. Parce qu'il est inerte, donc il ne ronfle pas, il n'a pas d'odeur et il n'est pas nécessaire de le sortir. Mais vous voyez, c'est ça l'histoire, c'est qu'on est dans une espèce de réflexion autour du totem, autour de l'objet l'objet divinisé. Mais il est évident que je fais aussi des pandas, j'ai des places publiques en Chine, à Singapour, dans le monde entier. Avec Robert Bartou, on a travaillé avec des politiques de Singapour, des politiques de Chine. En Chine, mais on a fait des choses vraiment incroyables, on a fait le tour du monde. Et puis surtout, c'est la chose la plus importante qu'il faut dire sur mon travail, c'est que toutes mes œuvres de A à Z, elles émanent toutes de ma tête et de mes mains, et que 100% des milliers d'œuvres que j'ai pu faire, je les ai faites sans aide, mais elles sont toutes différentes. Je n'ai jamais fait de ma vie des multiples. Chaque sculpture de Julien Marinetti est une sculpture unique. C'est pour ça qu'il y a ce fondement immédiat sur l'acte, sur le bien de propriété. Les gens sont heureux, les gens sont fiers d'être propriétaires d'une œuvre qui est unique et pas d'un multiple ou de quelque chose qui aurait été fait avec simplicité. D'ailleurs, il y a, je me souviens, un marchand, quand j'étais plus jeune, m'avait dit: chaque artiste réinvente le précédent. Donc je pense, et c'est le conseil que je peux donner à tous les jeunes artistes, ne cherchez pas une trouvaille ou une technologie nouvelle. Si on veut vraiment réussir, il faut se pencher sur l'histoire de l'art, il faut aller fouiller. En ce qui me concerne, j'ai fouillé Matisse, Fernand Léger, Glaise, tous les cubistes, beaucoup Van Gogh, beaucoup les impressionnistes, beaucoup Monet, beaucoup les couleurs, bien sûr Picasso. Et si on fouille ces gens-là, on peut se remettre dans leurs traces. Parce que évidemment, quand Picasso meurt en 73 ou en 54, Matisse, évidemment, imaginez s'ils avaient survécu à leur mort, qu'ils auraient pu continuer à faire. C'est tout à fait extraordinaire. Donc, ce sont des bases de réflexion, et c'est pour ça qu'on retrouve autant de référentiels dans mon travail qui sont des référentiels de l'histoire de l'art. Et c'est ce que je conseille d'ailleurs même aux artistes actuels. Je dis toujours cette phrase qui était une phrase de Picasso. Picasso disait dans les années 50, il est malheureux que presque tous les peintres, presque tous les artistes se fabriquent un moule à gâteau et font toujours le même gâteau toute leur vie. Et ça, c'est vraiment dommage. Il faut arrêter avec ces moules à gâteau. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire aux gens. Arrêtez de faire toujours la même chose.
Julien Marinetti, depuis des décennies sur notre antenne, on parle beaucoup de culture et d'art. Merci d'être venu en parler avec nous aujourd'hui.
Et merci de m'avoir invité.